Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité.
Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager.
L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus, disait Pina Bausch, la grande chorégraphe allemande. Mon invitée a dansé avec elle, oui, enfin pour elle, ainsi qu'avec le ballet du Bolshoï et celui de Przeszłowska. J'ai seulement 25 et quelques années, même s'il n'est pas très galant de donner l'âge. C'est un palmarès impressionnant qui l'anime. Pourtant, en le voyant arriver comme ça, avec sa démarche de danseur, il a tout d'un enfant. Un petit garçon dont le regard est rempli d'étoiles, de projecteurs, de pas de bourrée et d'entre chat. Pour recommencer cette nouvelle saison de l'Instant 2, faisons le plein de danse, de cette discipline fascinante qui sait si bien aller corps, poésie, esprit et créativité. Un petit tour et puis revenons à nos moutons, c'est de saison. Piquez les oreilles, pointez l'écoute, prenons de l'élan. Vous êtes dans la nouvelle édition de l'Instant 2.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Nicolas Zemmour.
Bonjour Mélanie.
Ça vous va quand je dis que vous ressemblez à un enfant ?
Ça va.
T'as taillé comme un athlète quand même, hein. je tiens à le souligner. C'est vrai que vous n'avez pas la démarche d'un danseur classique ?
Non, oui.
Comment se fait-ce ?
Oui, j'ai commencé la danse assez tard. Oui,
c'est-à-dire
voilà,
tard.
Tard, 18 ans au conservatoire.
Parce
voilà.
Que la danse, on la commence à quoi ? 3-4 ans ?
Oh, c'est 5 ça. Ans, oui, oui, quelque chose comme ça, très très tôt et... Donc oui, j'ai commencé assez tard. J'ai connu avant la danse avec un danseur qui s'appelle Sébastien Oliveros. À l'âge de 16 ans, c'était des cours. Il m'a fait connaître la danse et ensuite j'ai décidé d'en faire mon métier. Mm-hmm. Donc à 18 ans, je suis rentré au Conservatoire d'Avignon.
D'accord. Voilà. Et j'ai cherché un petit peu dans les archives. Alors, vous étiez un très bon élève au baccalauréat. Vous auriez pu faire de grandes écoles, de grandes préparations. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, on se dit, je veux devenir danseur ? Ce qui n'est pas un métier où on réussit tout de suite, forcément. Ou on mm-hmm. réussit tout court, d'ailleurs.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oui, c'était pas facile comme décision, puisque j'avais effectivement des bonnes notes à l'école. J'étais prise en école prépa à Marseille. Ouais. Et j'ai un frère jumeau qui, lui aussi, avait des études brillantes.
À double peine, alors, là.
qui, maintenant, est docteur, donc voilà. Et du coup, c'était un peu difficile, mais j'étais très sportif. Donc, la danse a lié à la fois l'intellect et le sport.
Ouais.
Et ça, c'est ce qui m'a attiré le plus au début. Ouais. Et ensuite, je me suis aperçu que le fait d'être fort à l'école, de vouloir étudier, d'aimer étudier, ça, je pouvais ne pas l'abandonner et puis continuer à travailler la philosophie, etc. etc.
Donc, où est-ce qu'on va en parler ? La danse, c'est aussi une expression intellectuelle du corps. Et, et bien sûr, c'est ce que vous cherchez à faire avec votre compagnie. On va en parler, mais avant, on revient un peu sur votre parcours. Pour un garçon, être danseur, c'est pas évident non plus, non ?
C'est pas évident non plus, surtout que je suis venu d'un milieu du lycée tout à fait normal. J'ai pas connu le milieu de la danse avant ça. Du coup, ça a été un petit choc quand je suis arrivé au conservatoire avec ces limites qui sont dépassées souvent parce que le corps est notre instrument et du coup, beaucoup de facilité à toucher les gens, etc. Ouais. Mais je me suis vite habitué parce que c'est très convivial, c'est très sympathique. Après, il y avait quand même beaucoup de garçons au conservatoire, donc je me suis fait des amis rapidement.
Et pour votre famille, ça n'a pas été
non,
forcément
mon père,
une... Ouais.
Mon père m'a dit qu'il serait très fier si je deviens un danseur et qu'il aimerait quand même que je continue à travailler dans ma tête. Donc, il travaille avec moi, même toujours actuellement. Donc, on travaille ensemble sur les concepts. Il est docteur à la faculté. Et du coup, bon, maintenant à la retraite, mais du coup, il m'aide dans le travail des concepts, dans la recherche chorégraphique intellectuelle.
Quand je pense à garçon, quand je pense à danse, moi j'ai une culture cinéma très basique, je pense à Billy Elliot. On va
Évidemment.
Écouter un petit extrait.
Avec plaisir.
Et on va réagir ensuite.
L'instant 2.
Instant 2.
Sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Tu veux faire danseur?
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps. Tu vois?
C'est normal pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. Ils veulent pas devenir danseurs de ballet.
Ils doivent passer une audition à Newcastle dans quelques semaines.
Tu pourrais pas être danseur ici à Durham?
Dis pas de conneries.
Je refuse que mon frère aille se montrer partout comme un crétin.
Les deux! J'y arrive pas! Mais t'as même pas essayé!
Je sais, madame. Je veux pas y aller, moi, à votre putain d'audition! Si vous voulez que j'y aille, c'est juste pour vous mettre en valeur!
Le Ballet Royal, Billy.
Son école.
Si t'es un véritable danseur, t'as qu'à nous montrer ce que tu sais faire!
On vient d'écouter un extrait de Billy Elliot, ce film qui se passe d'ailleurs pas de nos jours pour le coup et qui se passe dans une société ouvrière de mineurs qui est très marquée par là aussi des concepts virils et des déterminations d'un homme. C'est un homme, il fait de la boxe et rien de plus. Là aussi, comment on fait en tant qu'homme pour rester viril comme vous le faites dans vos spectacles et en même temps, j'allais dire, exprimer une féminité, une créativité qui fait partie de la danse. Comment on arrive à faire ça dans la création des spectacles?
Je pense que ce que j'essaie de travailler, c'est qu'il n'y a rien à opposer, mais tout est à conjuguer. C'est-à-dire que la virilité est intéressante à condition qu'elle soit conjuguée à une féminité. Sinon, la virilité en soi n'est pas intéressante. Elle serait vérité et c'est pas intéressant. J'y crois pas. Donc, je pense à l'articulation entre les deux doit être brillante pour pouvoir réussir à faire parler tout type d'émotion chez tout le monde. Voilà.
C'est intéressant parce qu'il y a une phrase qui me vient, une citation de Mozart qui dit « Je mets ensemble les notes qui s'aiment ». Quand on danse, qu'est-ce qu'on met ensemble pour pouvoir être ému?
Alors,
évident.
pas évident comme question. Je travaille en ce moment sur le mot qui s'appelle « émotion ».
Ouais. Au singulier ou au pluriel?
Au singulier pour le moment. Et si, étymologiquement, si on regarde ce mot, c'est « et »,« e ». Plus loin, motion, le mouvement. Et eux, c'est en dehors d'eux. Et donc, ce qui est très intéressant par rapport à la danse, c'est que la danse, on est dans le mouvement complètement, mais l'émotion, elle est en dehors du mouvement. Donc, comment dire que la danse émeut si on doit être en dehors du mouvement?
Ça vous met bien perdu, Nicolas. Qu'est-ce que... Attendez, reprenez la phrase juste avant. C'est dur de parler de danse, pour le coup, à la radio. C'est très compliqué.
Oui. En fait, l'émotion, c'est être en dehors du mouvement.
D'accord.
Si on oublie le mot mouvement parce qu'il nous perturbe l'esprit, on le traduit par temps et espace. Un mouvement, c'est quelque chose qui est dans le temps et dans l'espace.
C'est pas un geste?
Si, un geste, c'est calculé dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça qu'il se définit. Ensuite, être en dehors du temps et de l'espace, donc c'est arriver dans une bulle de poésie, d'amour, comme dit Mozart. Il faut relier par l'amour. Et donc, c'est cette bulle-là que le chorégraphe doit travailler, même si l'appui est le corps et le mouvement. C'est-à-dire que même si c'est concret, c'est la bulle au-dessus du mouvement qui doit travailler pour atteindre l'émotion.
Dans cette introduction, je parlais en vous présentant d'un parcours qui est quand même impressionnant, hein, parce que vous êtes pas vieux, et vous avez travaillé avec Pina Bausch. Quand on connaît un petit peu la danse, c'est quand même, ça fait partie des références, en fait, hein, chorégraphe allemande qui a un petit peu bousculé les codes. On a Cunningham et puis peut-être Roland Petit ici ou Maurice Béjart en France. Ça devait être une fierté. Racontez-nous un peu comment elle travaillait, Pina Bausch.
Alors, d'abord, j'ai fini le conservatoire. Ensuite, j'ai passé 3 années. Ensuite, je suis monté à l'école de Pina Bausch, là où j'ai appris...
En Allemagne,
à Essen, la technique de Kurt Jooss, qui était le professeur de Pina Bausch. Et donc, on apprend toute cette technique de danse contemporaine allemande. Et ensuite, donc, j'ai passé l'école j'ai été un peu plus rapide, parce que j'ai pas fait les cours théoriques, donc j'ai fait les cours pratiques de danse. Et ensuite, j'ai demandé à faire un petit stage dans la compagnie, mais j'étais que stagiaire dans la compagnie. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de danser sur scène avec la compagnie, puisque elle est décédée quelques temps après.
Vous l'avez rencontrée?
Et je l'ai rencontrée. J'ai pas eu des grandes discussions avec elle.
Mais elle était assez réservée, retrait quand même.
Voilà, très réservée, très en retrait. J'ai des contacts encore avec des danseurs de la compagnie qui sont des amis. Ouais. Donc, je les ai vus à Nîmes aux arènes. Et là, il y a
quelques mois.
Ouais. Et c'était très sympathique de les revoir. Mais donc, Pina Bausch, je peux pas vous dire exactement quel type d'échange j'avais avec elle, comment elle travaillait. Ça, c'est connu du grand public. Elle laissait énormément de place à la créativité des danseurs.
Et à l'improvisation?
Et
pas?
L'improvisation sur scène, pas trop. Oui. Il y avait vraiment de la composition chorégraphique de la part des danseurs.
D'accord.
Et je pense que c'est ça qui a permis à la compagnie de subsister des années et des années.
Sans elle?
Là, ça fait bientôt, ça fait bientôt 5 ou 6 ans qu'elle est décédée. Et la compagnie subsiste. Et
ça, Wim Wenders a sorti un film sur elle.
Tout à fait.
Pina en 3D. Vous l'avez vu en 3D ou pas,
oui,
Nicolas
oui,
Zemmour
oui, 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 oui.
Qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça, c'est intéressant. Je vais vous poser la question plus tard. Mais le cinéma de Pina Bausch ou de qui que ce soit, en 3D, c'est. Qu'est-ce que ça apporte de plus aux spectateurs ?
Effectivement, le film 3D, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça apporte de la profondeur et le mouvement à plat, c'est comme une bande dessinée. Et donc, on a l'impression de peut-être plus participer à l'intérieur du film. Mais maintenant, ils ont inventé des lunettes qu'on pose sur
immersives,
les yeux immersives,
ouais.
Les casques immersifs. Et ça, je pense que bientôt, le cinéma va s'y mettre.
Ouais.
Et quand on aura des pièces de danse immersives, ça risque d'être extraordinaire.
Là, l'émotion, elle sera réinventée.
Complètement.
Comment vous expliquez que les danseurs, les chorégraphes aient un petit peu de mal à parler de danse, à parler de leur art plus que les musiciens, plus que les cinéastes? Et c'est vrai qu'on trouve assez peu d'entretiens comme ça. Peut-être que le vote sera réécouté dans 50 ans et que ce sera un grand moment de radio, ce que j'espère. Mais comment c'est difficile de parler de danse, c'est difficile de parler du corps?
Le corps... est un symptôme assez difficile à éclairer. Angelin Preljocage dit souvent que le corps est l'endroit où il y a toutes les violences. Du coup, par exemple, sur scène, il met en scène beaucoup la violence. Voilà. Parler du corps, je pense qu'on peut parler d'état. Voilà, on peut parler de qualité, c'est-à-dire si je dis saccadé, tout le monde l'entend, mais après il y a 10 000 sortes de saccadé. Ce qu'elle boit avec la danse, c'est un art qui est très ancien, mais institutionnellement, c'est un art qui a 200-300 ans, après Louis XIV. Donc c'est un art nouveau au niveau des... au niveau des écritures, des pensées, des penseurs qui réfléchissent sur l'art de la danse. Donc discuter du corps, on le voit bien sûr en médecine, mais bon, ça c'est complètement pratique. Voilà. Donc si un chorégraphe commence à parler du corps, il peut parler d'un point de vue technique. Ah, il a fait un double tour en l'air, il a fait une courbe, il a fait, etc. Mais je pense que l'idée d'un chorégraphe qui parle de la danse, c'est d'exprimer ce qu'il essaie de faire ressentir à travers donc les qualités, les états.
Quoi un bon danseur, Nicolas Zemmour?
Un bon danseur,
moi je peux vous dire ce qu'est un bon musicien, je crois.
Un bon danseur pour moi, ce serait un danseur qui serait capable d'interpréter correctement une pièce tout en étant fidèle à la créativité du chorégraphe, donc avec une grande technique.
Je l'attendais quand même. Oui. Parce que bon, moi je peux danser comme ça et je n'ai aucune technique.
Non,
c'est
je pense qu'il faut une grande technique.
C'est la base.
C'est la base.
D'accord.
Oui. Et j'opte même pour une. Il faut une grande technique classique et une grande technique contemporaine de nos jours. Puisque le classique, si on ne veut pas être dans un grand opéra comme l'Opéra de Paris, dans toute audition contemporaine, pratiquement, on a besoin d'un cours classique sélectif. Donc je pense qu'une grande technique classique, une grande technique contemporaine. Et une ouverture d'esprit assez importante. Maintenant, les danseurs sont à 60% compositeurs de la pièce qui se fait dans les ballets, quoi.
On va terminer en parlant du ballet, justement, du Bolshoï. Ça aussi, c'est quand même une sacrée expérience. Vous aviez quel âge quand vous avez parti là-bas?
J'avais 23 ans. En fait, c'était
Direction Moscou.
C'était un échange avec le ballet Preljocage et le Bolshoï. On a fait une pièce commune. Enfin, Angelin a fait une pièce là-bas. Il a pris 10 danseurs de chez nous, 10 danseurs de là-bas. Et on a fait ça pendant un an et demi. On a fait la création et ensuite on a tourné dans le monde avec eux. Et on était donc à Moscou pour la création. On a fait les classes avec les danseurs du Bolshoï et c'était extraordinaire.
Alors, on dit souvent que le ballet du Bolshoï, c'est extrêmement rigoureux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un préjugé qu'on peut avoir?
C'est un préjugé. Non, c'est assez strict, mais j'y ai trouvé beaucoup plus de puissance que de propreté. C'est-à-dire que les danseurs exultent la danse. Ils ne vont pas essayer d'avoir le petit doigt correct. Ils vont essayer de donner le maximum d'eux-mêmes. Et ça, j'ai adoré la puissance que les danseurs pouvaient donner là-bas. Et j'en ai pris beaucoup en exemple. Et je m'en sers aussi dans mes chorégraphies.
Comment vous faisiez pour vous comprendre? entre les danseurs.
L'anglais, ouais. Et j'ai appris un peu le russe.
D'accord. Vous pouvez pas nous dire de petits mots ?
Daria Gavalupaluski.
Très bien. Je n'ai rien compris, mais c'était très joli. Ouais. Nicolas, je demande à chaque invité dans cette émission de choisir une chanson,
oui,
et un morceau de musique à partager avec nos auditeurs ici sur Radio Grenouille, sur les 3-8. Quel a été votre choix ?
Alors, j'ai choisi une musique du film Youth. Voilà, c'est une
de Sorrentino,
ouais, qui me plaît beaucoup, avec laquelle en ce moment je travaille de temps en temps pour m'inspirer et découvrir de nouvelles émotions.
Bon, on va l'écouter tout de suite
avec
alors.
Plaisir.
À tout de suite. Vous êtes dans l'instant 2 avec Nicolas Zemmour.
I wish you.
Vous êtes dans l'instant 2, réveillez-vous, avec Nicolas Zemmour, chorégraphe, danseur. On vient d'écouter La Giovinezza, c'est en italien, c'est le final du film Youth de Sorrentino, qui est sorti il y a quelques mois justement au cinéma. Quand vous fermez les yeux, Nicolas, mm-hmm. et que vous entendez cette chanson, mm-hmm. qu'est-ce qui vous vient comme danse ?
Alors il y a plusieurs choix de plusieurs comment on dit
choix de tempo de tableau.
Il y a plusieurs strates.
Oui.
Il y a la mélodie avec cette lenteur, cette hauteur, cette spiritualité complètement suspendue.
C'est extrêmement aérien en fait. Hein.
Très aérien.
Ouais.
À la fois et donc il y a cette strate là qui est assez lente. Il y a la mélodie qui ouais. est faite avec l'orchestre, qui est un tout petit peu plus rapide.
Mmh. Et sur la fin aussi, d'ailleurs.
Mmh, oui, tout à fait. Et il y a les pizzicati avec les violons. Et il y a, en dessous de tout ça, les violons, justement, qui sont hyper rapides. Donc, au niveau chorégraphique...
Il y aurait quoi ? Ce serait un solo ? Ce serait un duo ? Ce serait un ballet ?
Sur cette musique ?
Ouais.
Oh, pour moi, ce serait peut-être un duo.
Un duo.
Voilà, un duo de mort et de vie. Voilà, peut-être.
D'accord.
Et bah, c'est en référence au film, quoi. Hein,
oui, voilà. Bien sûr.
Mais donc, il pourrait y avoir des mouvements très rapides, très, très instinctifs, presque tremblants.
De vie, là, pour le coup.
Voilà, ouais. Tremblants et à la fois fragiles, ouais. et aussi des mouvements très aériens, des grands sauts ou des lenteurs mélancoliques, un petit peu pathétiques, voilà, entre l'humour et la vie.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Après avoir travaillé avec Prej Lokaj, vous avez voulu monter votre compagnie, mm-hmm. ce qui est tout à fait honnête et normal. Vous avez voulu aussi peut-être vous écarter un peu de la danse et peut-être, comme vous le faites là, réfléchir à de la création. Pourquoi ce saut de chat ?
Mm-hmm. Depuis le conservatoire, comme mon père me suit au niveau intellectuel, j'ai voulu, ça a tout de suite enclenché l'idée de vouloir créer. Donc, même en étant chez Angelin, j'ai créé quelques solos quand j'avais un petit peu le temps. Comme c'est un centre chorégraphique national, ils soutiennent les danseurs dans la créativité. Et donc, j'ai présenté deux pièces au pavillon noir. Une qui s'appelle Roule Corinthe, qui parle de l'histoire de Sisyphe. Et un autre dans le cadre aussi des affluents, qui s'appelle Bro, qui parle de la fraternité. Et c'était en septembre dernier.
Vous avez un frère jumeau en plus, donc
voilà,
vous connaissez le sujet.
Ouais. Exactement. Et du coup, j'en ai oublié la question.
Pourquoi vous êtes passé à la chorégraphie ?
Ah voilà. Et donc du coup, le faisant étant, maintenant j'ai eu une carrière de danseur qui m'a satisfait. Et j'ai toujours envie de danser dans ma propre compagnie, mais j'avais envie de danser mes mouvements. Voilà. Et puis de voir Angelin en création, j'ai fait quatre créations avec lui, ça m'a permis d'apprendre énormément sur la composition chorégraphique, sur comment faire, comment gérer un groupe, etc. Donc c'était un apprentissage aussi. Plutôt que d'être juste danseur, j'ai beaucoup appris chez lui. Et comme c'est un grand maître de la chorégraphie, j'ai pu m'inspirer largement. Et maintenant, je tente ma chance.
Avec la compagnie Zemmour, Zemmour Ballet.
Zemmour
Ballet. Vous appelez Nicolas,
voilà.
Zemmour.
Voilà.
J'allais dire, je vous ai posé la question de ce qu'est un bon danseur, qu'est-ce qu'un bon chorégraphe alors ?
Oula.
De danse.
Ce sera au public déterminé.
À ce point-là, c'est
ouais.
vrai ?
Ouais. Un bon chorégraphe, je vais vous dire juste ma pensée, je ne veux pas dire pour les autres.
Ouais.
J'espère que...
C'est un bon manager déjà. Pour ses danseurs.
C'est un bon... Il doit savoir gérer un groupe, ça c'est évident. Ensuite, je pense que au-delà d'essayer de montrer sa vision, son point de vue, ce qui était assez le cas dans les années 80, 90 et 2000, l'art contemporain est arrivé à le point de vue de cet artiste sur cette question et ça. Et j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie de pas placer le point de vue, c'est-à-dire une espèce de vérité. J'ai envie de placer le sens au-dessus de ça, c'est-à-dire juste ouvrir des portes aux gens.
Par exemple, sur un
choisir.
Thème. Sur un
Par
thème.
Exemple,
sur l'amour. Allez.
Sur la fraternité.
La fraternité.
Que j'ai fait un solo sur la fraternité qui s'appelle Bro. Et on a tendance à penser que c'est le même... le frère, c'est quoi ? C'est le même sang, la même religion, les mêmes pensées, le même. Le mot important, c'est même. Comme moi j'ai un frère, c'est les mêmes parents.
Puis vous êtes jumeaux en plus.
Et en plus on est jumeaux.
Alors que ça peut être une dualité.
Et donc, on a le premier fratricide d'écriture qui est dans la Bible avec Caïn et Abel.
Ouais.
Et donc, j'ai étudié un petit peu l'étymologie du mot frère qui vient du mot do. Voilà. Et le do, c'est quelque chose d'étrange pour la danse parce que c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui est le plus fort possible, mais à la fois ce qui est le plus mobile. Mmh. Un cubitus, on ne peut pas le bouger. Une colonne vertébrale, ça bouge tellement. Donc, du coup, c'est ce qui est derrière nous. C'est ce qu'on ne voit jamais,
ouais.
C'est ce qui est différent.
Ouais. Ce qu'on ne comprend pas forcément.
Ce qu'on ne comprend pas. Et donc, avec l'étude et avec mon solo, j'essaie d'ouvrir la porte de le frère, ce n'est pas celui qui est le même, ouais. Mais c'est celui qui est différent. Et après, c'est de savoir vivre avec ces différences qui va faire le bonheur.
Et ensuite, de savoir mettre ça en mouvement pour que, sans parole et seulement avec votre corps, le public mm-hmm. comprenne ce que vous voulez dire, parce que c'est pas forcément évident. Enfin, quand on fait un mouvement de la main comme ça, qu'est-ce que je signifie par ce geste
Voilà.
Il faut que ça aille jusqu'au public, parce qu'il peut s'ennuyer aussi, il ne peut pas comprendre.
C'est ça. Alors l'idée, c'est ce que je viens de dire, c'est que le but, c'est pas que le public comprenne que je traite de la fraternité. C'est que ça, c'est mon problème de chorégraphe, de travailler mes concepts. Ensuite, il y a une chorégraphie qui essaie d'être dans une transmission d'émotion. Transmission, c'est la mission du chorégraphe, c'est de faire de la transe. Donc, de rendre le public en transe grâce à des mouvements. Ensuite, ça déclenche des émotions. Ces émotions sont censées être en lien avec les études que j'ai faites.
Donc, ça donne concept, chorégraphie, émotion.
Voilà.
C'est ça ? J'ai compris ?
Avec la transe qui travaille tout au milieu de tout ça.
Ou la spiritualité un petit peu plus haut, voilà. Comme ça, au-dessus de nos têtes.
Voilà.
D'accord. On va faire une petite interview un peu plus courte, un peu plus mitraillette,
okay.
sans violence évidemment.
D'accord.
Tout en pacifisme, ça s'appelle l'interview Si vous étiez. Vous me donnez une réponse très très courte, si vous n'étiez pas au courant, Nicolas Zemmour. C'est aussi ça, les surprises de l'instant 2.
Ok. Si vous étiez...
Si vous étiez...
Si vous étiez...
Si vous étiez...
Si vous étiez une émotion, parce que vous en parlez beaucoup, Nicolas Zemmour, laquelle et pourquoi
la joie.
Pourquoi
J'adore rire.
C'est vrai que vous avez un trop joli sourire, comme ça, ça pétille. En fait, vous n'êtes jamais malheureux.
Non, si, j'ai des moments de blues.
J'espère pour vous quand
j'ai
même.
J'ai des moments de blues, c'est évident.
La joie, pourquoi la joie? Qu'est-ce qui différencie la joie du bonheur? On va faire de la philo, la danse amène à tout.
J'aime le bonheur, ce serait quelque chose de, c'est un concept philosophique complètement lointain de l'humanité. La joie, c'est l'émotion que l'on ressent, et le bonheur, c'est une sorte de chose qu'on veut acquérir.
Un idéal, oui.
Voilà, un idéal, voilà. On peut ne pas être d'accord avec. Et par contre, la joie, c'est quelque chose d'instantané, c'est quelque chose de chimique. C'est l'humour, c'est la vie, c'est la vie. Même face à la mort, la joie peut nous faire sourire.
Je vais vous demander quelque chose d'assez compliqué en radio, mais j'aime bien expérimenter, on est là pour ça à Radio Grenouille également, dans l'instant 2 aussi. Si vous aviez un mouvement de danseur pour définir la joie, vous me le faites et vous essayez de le décrire, Nicolas. Alors, moi ce serait ça.
Ah oui?
Voilà,
ah, d'accord.
Je claquerai les doigts comme ça en levant mes mains. Et vous,
moi,
ce serait
un frétillement qui viendrait du nombril,
ouais.
Avec les bras, les coudes serrés, les mains proches du torse,
ouais.
Et un petit tremblement qui monterait avec un sourire. Voilà, ce serait comme ça.
Alors, j'espère que vous qui nous écoutez en ce moment sur la drogue. Ah, comme
essayez.
Quand on tremble comme ça.
Et on lève les mains un peu vers le haut,
ouais.
Et ce serait ça.
D'accord,
voilà.
On va continuer là-dessus. C'est bien. Si vous étiez un geste, alors, pour définir une autre émotion qui serait. C'est très compliqué ça. La nostalgie, tiens.
La nostalgie.
Ça frétille, moi, tout à coup.
J'irai caresser avec le dos de ma main,
ouais.
Donc pas la paume, le dos, mon menton, et j'irai déposer, comme le penseur, mon visage tout doucement sur le côté, sur la tempe.
Ça, ce serait la mélancolie.
La nostalgie.
La nostalgie, pardon.
Voilà.
Ouais, c'est vrai
comme
que c'est
ça.
Pas tout à fait pareil.
Et après, on pourrait le décliner jusqu'à ce que ça arrive.
Oh, c'est joli, c'est adorable. J'aimerais que vous soyez là pour le voir, mais la radio n'a pas encore l'image, et c'est tant mieux. Si vous étiez une danse, un style de danse, parce qu'on a assez peu évoqué d'ailleurs la technique de ce point de vue-là, Nicolas.
J'aime énormément la technique classique avec laquelle je m'entraîne tous les jours. Maintenant, j'ai aussi eu beaucoup de danse contemporaine dans mon corps.
Est-ce qui fait kiffer, par exemple, je sais pas, du cha-cha, du hip-hop, du...
En autre type de danse.
En autre type de danse, pas forcément ce que vous faites en chorégraphie.
Je pense que j'aime beaucoup les danses traditionnelles, balkanes.
Ah,
et qui sont très énergiques, et les danses traditionnelles juives qui ressemblent à ces danses balkanes. Voilà.
D'accord.
Très énergiques, très, très puissantes.
Je vais être Rabbi Jacob, là. Oui, fais gaffe, cette collation. C'est, franchement, c'est exactement
non,
ça.
Non, mais j'ai vu une vidéo de Balkans qui sautent sur les genoux. Ils font ça, ouais. Ils font double tour en l'air, ils atterrissent sur les genoux. C'est incroyable. Ouais. Ils sont d'une puissance.
Vous pourriez le faire, ça ?
Je ferai attention à mes genoux, mais j'ai pas essayé. Je me suis poser la question devant la vidéo.
C'est vrai que vous êtes assez logique et continu comme garçon, parce que la joie, c'est aussi ce qui fait la musique des Balkans. Il y a aussi de la nostalgie d'ailleurs, et les danses balkaniques en tout cas. Si vous étiez un danseur, tiens, j'imagine que vous admirez des danseurs connus un petit peu, ce serait bien, mais
oui,
sinon c'est pas grave.
Il y a un grand maître de la danse que j'admire depuis tout le temps, qui a été mon professeur, Dominique Merci, un grand danseur de Pina Bausch, que j'admire en tant que danseur, qui est formidable.
On a de bonnes recrues ici, hein, entre Maurice Béjart, Roland Petit, Prège Lecage, Frédéric Flamand, qui a dirigé le ballet de Marseille également.
Maintenant, Emio Greco.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
C'est une terre de danse, la Provence ou le Sud?
Effectivement, je pense qu'on est une région emplie de différentes nations, de différents gens. C'est un melting pot. Et je pense que c'est très enrichissant. Il y a deux choix. Soit on rejette tout, et c'est pas sympa. Ou soit on accepte tout et on essaie de vivre avec. Et c'est formidable la richesse qu'on peut avoir avec toutes ces cultures qui se croisent dans la région. Et je pense que ça favorise l'art.
Je vais vous emmener en voyage, Nicolas Zemmour. Ça vous dit ?
Avec grand plaisir.
Vous aimez peut-être les musiques balkaniques. Alors, il y en a qui s'influencent beaucoup de cette musique-là. C'est le groupe Beyrouth, que vous connaissez peut-être. Et il y a un autre groupe qui ressemble beaucoup, notamment du côté de la voix. Ça s'appelle The Leisure Society. C'est estival, c'est frais, c'est génial. Et ça s'appelle The Fine Art of Hanging On. Écoutez, génial. Ouvrez les oreilles. Vous êtes sur les 3-8 et sur Radio Grenouille. The Fine Art of Hanging On, c'était The Leisure Society pour le groupe sur Radio Grenouille. Vous êtes toujours dans les 3-8, dans l'instant 2, avec Nicolas Zemmour. Il est danseur et chorégraphe, je rappelle, hein, il a dansé avec Pina Bausch, avec Angéline Prijs-Locage et puis le ballet du Bolshoï, rien que ça, pour monter sa compagnie, une compagnie que vous allez peut-être voir également, que vous avez vu cet été. Vous êtes allé, Nicolas, dans plusieurs festivals, et notamment en Isère, du côté de Grenoble, au festival de Beauregard. Comment c'était en juillet ?
Eh ben, c'était extraordinaire. On a vécu 4 jours de bonheur. C'était des représentations en plein air, dans un château. Et c'était magnifique parce qu'on a une vue imprenable sur Grenoble. Ouais. Et quand la nuit arrive, c'est extraordinaire. Donc, c'est dans des jardins. Ce bout de chorégraphie, on est torse nu à table. Et quelqu'un nous verse de l'eau dessus avec des arrosoirs.
Sexy.
Et voilà. Et du coup,
ces dames ont dû adorer.
Il y a 2 femmes et 1 homme. Oh, et ensuite, on se déplace de la table et on danse au milieu de la scène. Et c'était magnifique de voir le coucher de soleil en même temps, de danser sur scène et d'avoir d'autres choses à regarder. C'était très agréable.
Mais vous avez des retours parce que la compagnie est toute jeune. Hein, donc oui. Du coup, c'est une première de se confronter au public. Enfin, en tout cas, ça fait partie des premières fois. Des retours, des critiques aussi peut-être ?
Alors on a eu le retour direct du public qui nous a beaucoup applaudi, on était très contents que ça ait marché.
Ça, c'est spontané, c'est vrai.
Mais des fois ça n'arrive pas, donc là on était très contents. J'ai des danseuses formidables qui me font aussi des retours de comment est la compagnie, comment elles se sentent dans les spectacles. Et les gens ont... Les mots qui revenaient étaient poésie, émotion, technique. Donc, c'est des mots auxquels j'aspire aussi. Mmh. Ensuite, il y a un grand théâtre qui s'intéresse à mon travail. C'est les Grands Théâtres du Luxembourg, voilà, qui me produisent la prochaine création, qui se passera au Grand Théâtre du Luxembourg le 1er juin 2017.
Wow.
Voilà, donc ça, c'est agréable de voir un grand théâtre qui s'intéresse à mon travail.
C'est sachant pas évident quand on est jeune créateur comme ça. Ouais.
C'est très difficile. Les portes sont souvent fermées.
Même en ayant dansé avec Angéline Prijs-Locage.
Eh bien, c'est vraiment 2 métiers différents. Quand on est danseur, on est danseur. Et dès qu'on se lance dans la chorégraphie, ben, je suis vraiment personne. Donc, les difficultés d'ouvrir les portes des théâtres, des directeurs, des programmateurs, c'est très compliqué. Et comme je suis tout seul pour le moment en administratif dans la compagnie, j'ai du mal à faire de la diffusion, de la programmation, qui n'est pas du tout mon métier. Mmh. Moi, je peux parler de ce que je fais, mais vendre soi-même ses propres spectacles, c'est
pas
difficile.
Ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux quand vous dansez ? Qu'est-ce que ça vous procure ?
Alors déjà, je pense que c'est chimique. Il y a, comme on transpire énormément, ouais, je pense qu'on a de l'adrénaline et tout
ça. La transe aussi, hein, il y a un peu de ça.
Voilà, complètement. Ouais. Et puis, si je danse pas pendant 1 semaine, je deviens triste. Voilà, ça me manque physiquement. C'est
ça,
comme les sportifs,
vous,
quoi.
En fait, c'est ça. Comme la musique, d'accord.
Ouais.
Ah ouais,
non, mais en plus, il y a le point de vue sportif.
Et physique.
C'est-à-dire qu'il y a un peu de drogue qui se met dans notre corps. Et du coup, on en a envie encore et encore. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est entrer en poésie, voilà, avec tout mon être,
joli,
mon cerveau,
ça.
Mon cerveau.
Entrer en poésie, comme on entre en religion, comme on entre en communion, c'est à ce point-là.
C'est vraiment, vraiment, c'est agréable de sentir que son corps et son esprit ne font qu'un, mais pas dans le sens ils étaient deux puis ils sont devenus un,
ouais,
mais l'esprit guide vers une idée et le corps la transmet. Et d'avoir cette osmose-là, cette harmonie, c'est vraiment très agréable. Mmh. Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait rêver encore, Nicolas Zemmour ? Si je claquais des doigts pour vous, vous me diriez quoi ?
Je veux un théâtre.
Je veux un théâtre tout de suite. C'est un petit peu un caprice de gosse. Ça, quand
voilà.
Même, hein. Et pour terminer un petit peu sur le côté actuel de la danse, avant de donner bien sûr les liens vers votre site internet pour la comédie Zemmour Ballet, les émissions de télévision qu'on a vues, autant sur les danses de salon, danses avec les stars, ou ces danses avec justement Patrick Dupont. Vous pensez que ça a amené des gens qui n'étaient pas du tout intéressés à la danse, à s'intéresser à cet art-là ou pas ? Ou pour vous, vous le dénigrez totalement et vous l'assumez ? Vous pouvez le dire. Hein.
Je pense que c'est une danse commerciale qui se passe à la télé.
Ouais.
Je trouve ça très important que les gens qui regardent la télé soient sensibilisés à la danse par n'importe quel moyen.
Donc par ce moyen-là.
Même par ce moyen-là. Néanmoins, je pense que...
C'est ce que disait Patrick Dupont dans ses interviews. Voilà. C'est quand même un gars qui a marqué la danse.
Exactement. Exactement.
Il n'y voyait pas d'inconvénient.
Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à condition que ce soit suivi par... on emmènerait le public vers autre chose et ailleurs. Le seul problème c'est que cela s'arrête à ce niveau commercial et je trouve ça dommage, mais sinon je suis enchanté de voir que la danse est sur les écrans, parce que c'est un art qui est souvent décrié et qui n'est pas mis en valeur.
L'instant 2.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Et si on faisait maintenant une pause dans l'histoire, histoire de remonter le temps, c'est aussi ça, la magie de la radio. Nouveauté cette année, nouvelle chronique dans l'instant 2. Il s'agit de l'instant T.
L'instant T.
Bonjour Frédéric Paul.
Bonjour Mélanie.
Si je vous dis danse, puisque c'est le sujet de notre émission aujourd'hui aux côtés de Nicolas Zemmour, chorégraphe, danseur, vous pensez à quoi ça vous évoque quoi ?
Je pense que la danse est un art qui mérite le meilleur. Ah. Et je pense au Ballet National, je pense à une salle de spectacle, je pense au Conservatoire de musique, et tout cela se retrouve à Aix-en-Provence dans trois bâtiments distincts. Trois bâtiments, trois architectes, trois fortes personnalité. Mmh. On commence en 2006 avec Rudy Ricciotti, l'architecte marseillais qui aime se faire détester, lui qui va créer ce pavillon noir, cette structure de béton autoportante, béton noir sur une peau de verre. La culture, visible depuis l'extérieur car l'on voit les danseurs évoluer tels des ombres chinoises. Tiens, il reprendra cette idée.
Chose,
oui, il reprendra cette idée un peu plus tard, en 2013, à Marseille, avec le MUCEM. La salle du Pavillon Noir est très très petite, 386 places, une scène minuscule qui ne permet pas d'accueillir de grands ballets. Mmh. Alors, qu'a-t-on fait ? On a demandé à un architecte italien de faire de l'autre côté de la voie ferrée, que les promeneurs ne voient pas car elle passe sous leurs pieds, le Grand Théâtre de Provence. Mmh. Un bâtiment hors norme. 20 000 mètres carrés, 1370 places. On est de suite plus à l'aise.
Ah oui, c'est sûr.
Et le bâtiment rend de nombreux hommages à la ville qui l'accueille. De la Seine, qui fait 440 mètres carrés, 440 mètres, c'est la longueur du cours Mirabeau, au forum extérieur de forme circulaire pour rappeler le cercle de la fontaine de la Rotonde, en passant par la forme de la montagne Sainte-Victoire, subtilement visible dans le profil du bâtiment. Mmh. On a sorti le grand jeu.
Ah oui.
De bâtiments qui attirent les regards et qui sont très méditerranéens dans leur manière démonstratrice.
Et ça me fait penser à quelque chose, Frédéric. Il n'y a pas un troisième bâtiment au milieu ?
Oui, il y en a un troisième qu'on pourrait presque oublier, c'est le conservatoire d'Arius Millau, un conservatoire qui pourtant fait 13 000 mètres carrés de superficie, qui réunit en son sein le conservatoire de musique, le conservatoire de théâtre et le conservatoire de danse. Et ce bâtiment est dû au crayon de l'architecte japonais Kengo Kuma, qui a réalisé à Marseille le bâtiment de la FRAC, par exemple. Et cet architecte fait un bâtiment, en toute humilité, un origami, un pliage japonais avec des ailettes un petit peu partout. Un bâtiment qui, pourtant, vient s'opposer aux deux bâtiments existants. Au noir du pavillon noir de Rudy Ricciotti, il oppose un blanc éclatant, immaculé. Aux rondeurs du grand théâtre de Vittorio Gregotti, il oppose des lignes droites tendues. Si vous regardez, il n'y a qu'une fenêtre sur tout le bâtiment qui ne soit pas rectangulaire. C'est une fenêtre triangulaire et elle fait face au pavillon noir qui accueille le Ballet National près du Hocage. Cette fenêtre qui fait miroir avec les triangles du bâtiment voisin est celle de la salle de répétition du conservatoire de danse. Et elle jette un pont invisible entre les deux mondes en disant aux élèves « Vous apprenez ici, aujourd'hui, et peut-être que plus tard, vous serez des professionnels là-bas. » La poésie est souvent dans les détails invisibles.
Le visible et l'invisible. Frédéric Paul, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conférencier, guide conférencier et conteur de rue. On vous retrouve chaque mois. Alors je vous dis tout simplement au mois prochain.
À bientôt.
L'instant 2.
L'instant 2.
Prenez le temps de partager.
Sur Radio Grenouille.
L'émotion, on en parle beaucoup dans cette émission. Nicolas Zemmour, un danseur chorégraphe, je demande parfois à notre invité de choisir un texte et de le partager, de le lire et de m'en donner les raisons de ce choix. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez choisi justement, Nicolas ?
Alors, mon père m'a fait découvrir un écrivain actuel qui est extraordinaire, qui s'appelle Novarina. Qui fait de la poésie avec les mots. Mmh. Donc, il est dans l'émotion totale et du coup, avec son art à lui. Et du coup, j'ai choisi l'introduction d'un petit livre. Alors, ça dit ça. Voici que les hommes s'échangent maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne s'en forgeant plus qu'une monnaie. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Nous deviendrons enfin égaux aux animaux, car les animaux n'ont jamais parlé, mais toujours communiqué très très bien. Il n'y a que le mystère de parler qui nous séparait d'eux. À la fin, nous deviendrons des animaux, dressés par les images, hébétés par l'échange de tout, redevenus des mangeurs du monde et une matière pour la mort. La fin de l'histoire est sans parole.
C'est joli, ça, des mangeurs du monde. Mmh, mmh. C'est ça qu'on est quand on danse.
Et voilà. Et donc, du coup, c'est crieur sur la société actuelle, mais c'est fort d'espoir, puisque ça dénonce, mais à la fois, il faut être
Oui, ça veut dire qu'on
bon
peut
mangeur.
Aussi communiquer sans mots et sans parole.
Et il faut essayer d'avoir la parole dans le monde pour régler tout ça. Ouais.
On n'a pas parlé, d'ailleurs, de danse et de politique, mais là aussi, hein, vous parliez de sens tout à l'heure, ça peut donner forcément à voir. La danse a montré par le corps ce qu'on ne peut pas dire par les mots.
Complètement, complètement. Mmh. Et je pense que vous me posiez la question, qu'est-ce qu'un bon chorégraphe ? Je pense qu'un chorégraphe doit avoir un engagement politique, pas forcément à dire avec quel parti il se sent le plus proche, mais d'avoir un engagement humain, éthique. Voilà, dans le sens éthique, politique. Voilà. Il doit avoir un engagement éthique et puis dénoncer des choses et espérer que l'humanité aille mieux.
D'accord,
voilà,
ça
j'espère.
C'est votre point de vue. Ouais. Une dernière chose, vous parlez beaucoup de votre papa.
Oui.
C'est une inspiration, une influence.
J'ai eu un malheur dans ma vie avec mon frère d'ailleurs, c'est qu'à l'âge de 13 ans, ma maman est décédée. Voilà, donc c'est mon père qui nous a élevés. Ensuite, il a rencontré une autre femme avec qui on s'entend merveilleusement bien. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de considération pour mon père, qui est un homme extrêmement intelligent et extrêmement ouvert d'esprit. Et donc, le travail qu'il fait avec moi, c'est un travail de directeur de recherche. C'est-à-dire que lorsque je sens avoir trouvé une vérité, quand je sens avoir trouvé quelque chose de bien, et il me dit « Non, c'est pas ça ». Il me redirige vers autre chose, ce qui me permet d'avoir l'ouverture un peu plus présente.
Vous avez l'air ému justement d'en parler. La première fois qu'il a dû vous voir sur scène et que vous avez dû croiser son regard, c'était comment ?
C'est assez émouvant, oui, de penser qu'il est dans la salle, même quand il y a mon frère aussi, ou Josiane, la compagne à mon père, et vraiment c'est émouvant de penser à sa famille dans la salle, parce que c'est un accomplissement quelque part, et surtout j'ai envie que ça plaise.
Vous pensez à votre maman quand vous dansez ?
Énormément.
Elle aurait été fière de vous ?
Elle était danseuse amateur, mais j'espère. Elle était à Marseille, elle faisait des cours privés comme ça. Et j'espère je pense qu'elle sera fière. Elle avait un regret, c'était de ne pas nous avoir vus grandir, ne pas nous avoir vus hommes, mon frère et moi. Et j'espère qu'elle sera... Enfin, je sais.
Elle vous voit là-haut, peut-être.
Peut-être pas. Je sais pas. Je crois pas en ça. Mais en tout cas, j'essaie de maintenir son souvenir en moi à travers tout ce que je fais. Et voilà quoi.
Si vous aviez un mot pour terminer, définir la danse, ce serait quoi ? Moi, je crois que ça va être émotion.
Allez, émotion.
Ça prouve que je vous ai bien compris pendant 50 minutes. Merci beaucoup Nicolas Zemmour d'être venu avec nous. Évidemment, sur la page de l'émission, on mettra les liens vers votre ballet, le Zemmour Ballet, vers votre compagnie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite.
Merci beaucoup.
Vous avez
merci Mélanie de l'accueil.
Ah, vous avez le temps en tout cas. Hein. Franchement, merci. Je ne m'inquiète pas pour vous. Merci Nicolas. Merci à
Mélanie.
Sébastien Gély aux commandes de danser de cette émission. Ça fait déjà 2 ans Sébastien. On fait cette émission de l'instant 2. Ça passe. Je prends un coup de vieux moi aussi. Merci à Julien Rondon pour la mise en lien et la trouvaille de ce bel invité qui est Nicolas Zemmour. Cette émission est à réécouter, à savourer, à déguster. Vous vous en délectez sur www.radiogrenouille.com. Et moi, je vous dis, au mois prochain, nous serons déjà en octobre. Merci Nicolas.
Merci à vous.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.